suite à cette dite enquête-là. Demain, date butoir pour ce qui est de l'ACIUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Et là, on ne panique pas quand on dit date butoir. C'est pas que, ça ne veut pas dire que demain, si on ne s'est pas entendu entre les pays, on n'a plus d'entente de libre-échange. C'est que demain, les chefs des États doivent dire si oui ou non, ils veulent renouveler l'entente pour une durée de 16 ans. Ou encore, s'ils disent non, bien, il y a un processus qui s'enclenche. Ça fait partie de ce qui avait été négocié à l'époque. Ce sera donc une révision annuelle pour les 10 prochaines années. Ce qui est particulier, c'est que l'ACIUM avait été négocié lors du premier mandat de Donald Trump, qui avait dit à ce moment-là que c'était le meilleur accord commercial de tous les temps, alors que dans les dernières semaines, il a dit que c'était le pire accord, qu'il ne signerait pas, mais qui pourrait peut-être le signer aussi, fait que ça demeure très nébuleux du côté du premier ministre canadien, Mark Carney, qui, lui, s'attend à ce que ça puisse être très, très long avant qu'on s'entende.
C'est très, très... c'est niché quand même comme référence, mais c'est très, très moi-même et Irène.
Oui,
c'est,
oui.
C'est, on est rendu au stade avec ce monsieur-là où il peut être en joie le vert après lui-même et ne plus se souvenir de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit dans le passé. C'est quand même assez particulier. Puis si on a une renégociation ou en fait... Renégociation, je pense que le mot est très, très large dans ce cas-ci, mais annuellement, ben, disons-nous que peut-être dans quoi, 2 ans et peut-être un petit peu quelques mois, à ce moment-là, peut-être que l'ACIUM pourrait redevenir avec une, revenir avec une signature qui pourrait à ce moment-là être sur les 16 prochaines années, à moins que l'année prochaine, ils reviennent en disant « C'est vrai, c'est moi qui avais signé ça, c'est bon en tabarouette cette affaire-là. Hey, comment ça qu'on n'a pas signé ça pour 16 ans? » Tu sais, c'est tellement aléatoire que on dirait que j'ai l'impression qu'avec ce monsieur-là, c'est quasiment mieux d'avoir une entente puis d'y aller annuellement, au jour le jour.
C'est dur de savoir qu'est-ce qui est le mieux. Bien franchement.
Écoute.
Moi, je dis toujours un peu la même chose quand on parle de ça, mais le temps est notre ami.
Ouais.
Faut pas réagir à tout. Là, on a un petit peu de temps. Il y a des élections de mi-mandat l'automne prochain. Il y a des décisions qui sont renversées par la Cour suprême. Là, je m'excuse, mais il est âgé.
Mm-hmm.
Il n'est pas supposé d'être capable de se présenter pour un troisième mandat. Donc, patience. Il va avoir des conséquences sur notre économie. Là. C'est pas, ce ne sera pas une marche dans le parc, mais la patience, c'est notre ami.
Je ne l'avais pas vu passer, mais je vais revenir sur une nouvelle dont on s'est jasé un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est que hier soir, ben en fait cette nuit, il y a une femme qui a été arrêtée parce qu'elle aurait menacé des agents du service de police de la Ville de Québec sur les médias sociaux et le Journal de Québec a l'identité de la dame. Marie-Suzanne Brière, qui elle a comparu cet après-midi pour les menaces en question. Toujours selon ce texte-là, elle a été condamnée à 4 ans de prison pour une infraction semblable en 2024. C'est donc une multirécidiviste. Cette fois-ci, la première fois, c'était des lettres menaçantes qui avaient été envoyées à des policiers en février 2024. Et là, c'était cette fois-ci à des agents directement du SPVQ. Donc, un chef d'accusation d'avoir proféré des menaces de mort aux policiers du service de police de la Ville de Québec, ainsi qu'à un chef d'harcèlement criminel. Au moment des infractions, elle était dans une maison de transition du Vieux-Québec. Elle y était dans le cadre d'une semi-liberté en marge de cette fameuse peine-là, parce que la peine, du même genre, vous comprendrez que ça remonte à 2024, on est en 2026, si c'est 4 ans. En principe, elle n'est pas tout à fait libre. Les menaces envers les agents auraient été proférées, donc, comme je vous le mentionnais, sur les médias sociaux. Elle a donc été arrêtée au courant de la nuit dernière. Le ministère public s'est opposé à sa libération. Donc, elle va demeurer détenue d'ici la tenue d'une enquête sur sa remise en liberté. Son dossier a été reporté au 9 juillet prochain. Fait que voilà, on a... Fait que c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Je veux terminer avec une histoire qui s'est retrouvée un peu plus tôt aujourd'hui en une de la presse. Procréation assistée, je ne sais pas si vous avez des gens dans votre entourage qui ont passé par ce processus-là. C'est un processus qui est long, qui n'est pas très agréable de part et d'autre. Et souvent, quand ça va fonctionner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va congeler des embryons, puis qu'on se dit si on choisit d'avoir d'autres enfants après une première grossesse, ben on n'aura pas besoin de refaire tout le processus. C'est un homme qui poursuit pour 1 million de dollars un médecin du Centre de fertilité de Montréal. Selon le texte de la presse, il dit que la clinique ne s'est pas assurée de son consentement avant d'implanter l'embryon que lui et son ex-épouse avaient fait congeler quand ils formaient un couple.
Ah!
Fait que là, tu sais, il y a cette espèce de zone grise-là, donc l'utilisation d'un...
plus à la mère? Mais non.
C'est pour ça qu'il poursuit, lui.
Ben oui, c'est
parce que c'est censé, tu sais, il faut que les deux puisse consentir à tout ça. Mais là, dans l'histoire, puis je vais vous lire ce qu'on a à l'intérieur de tout ça. Lui dit que le transfert d'embryon a été effectué en clinique le 15 octobre 2025. Il dit que lui et son épouse s'étaient séparés le 3 octobre, qu'elle a procédé sans son accord. D'ailleurs, l'enfant est né. Là, il est né au mois de juin de cette année. Pauvre enfant. Le jour, il va avoir accès à Google, même s'il n'y a pas de nom. Là.
Ben non, mais c'est
un
sûr.
Plus un, ça fait deux.
On va finir par le savoir, là. C'est sûr.
Lui était, les deux parents étaient déjà parents d'un enfant de 3 ans. Puis, pendant leur mariage, ils avaient fait congeler des embryons au cas où pour un usage futur potentiel. Puis, de ce que l'homme allègue dans sa poursuite, il s'est mis à s'inquiéter d'abord quand il est allé récupérer des affaires à lui dans le véhicule de son ex. Il dit qu'il est tombé sur une prescription d'un médicament qu'on utilise en fertilité pour améliorer l'implantation embryonnaire. Ensuite de ça, il a reçu une contravention de stationnement pour un véhicule à son nom à lui près de la clinique de fertilité. Il dit là, ça a ajouté à son tourment. Et finalement, il dit avoir contacté la clinique et avoir ainsi appris que son ex était enceinte de 6 semaines.
My God!
Toujours dans la poursuite, selon ce qu'on allègue, là, c'est que sa signature aurait été falsifiée par son ex sur le formulaire de consentement. Puis vous comprendrez qu'il ne peut pas poursuivre son ex pour ça. Par contre, lui, ce qu'il veut, c'est une compensation au médecin pour les dommages liés à cette grossesse-là sans son consentement, en disant que le médecin a omis de s'assurer de l'authenticité de sa signature, qu'en raison de sa mauvaise conduite et de sa négligence, il est victime de dommages personnels, moraux et psychologiques, qu'il vit de la détresse et de la colère, qu'il a subi un choc. Il estime avoir perdu le contrôle de décisions fondamentales de reproduction affectant sa vie et son futur et d'avoir été privé de son droit de déterminer si et quand il voulait un autre enfant. Parce que lui, il dit que là, t'as pas le choix. Il doit reconnaître le fait qu'il est père, il doit assumer les responsabilités personnelles, légales et financières, etc., etc. Fait que c'est pas la première fois, semble-t-il, qu'il y a des poursuites comme ça qui existent. Mais tu sais, c'est le fameux principe de... Qu'est-ce que tu fais?
Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu dis, vous comprendrez que lui, il peut pas poursuivre la femme, son ex-femme. Il peut pas la poursuivre. Il n'y a aucun recours pour...
Pourquoi il la poursuivrait?
Falsifier pour avoir une signature.
Ben, elle a falsifié une signature. Elle a quand même... C'est un vol d'identité,
mais
ça.
Mais d'un autre côté, c'était à la clinique, vraisemblablement. Probablement qu'il sait qu'il peut pas faire d'argent avec ça.
Je suis pas mal sûre, puis à vérifier, là, on le vérifiera, mais je suis pas mal sûre que si je forge la signature de quelqu'un, je brise une loi, là.
Absolument.
Ben, c'est sûr que le médecin va se retourner ou la clinique va se retourner vers la mère porteuse en disant, tu sais, nous, on a, notre façon de fonctionner, c'est que les documents doivent être remplis. C'est ça notre politique à l'interne.
Au civil, c'est normal qu'ils s'en prennent à la clinique. Mais oui. Moi, je pense qu'elle, elle a posé un geste criminel.
Ben, je pense que c'est un vol d'identité à ce moment-là. Puis c'est sûr que la clinique va
poursuivre la mère de ton enfant pour une histoire de même.
Mais là, c'est plus...
Ben, c'est ça, c'est un choix, mais c'est elle qui a posé le geste criminel.
Ben oui, puis là, tu sais, de toute façon, bon, t'es déjà en séparation, fait que...
C'est sûr, c'est plate de se chicaner, mais c'est elle.
Mais là, c'est ça, t'es déjà en séparation, puis après ça, tu sais, c'est rentré par texto aussi. Est-ce qu'elle, elle peut revenir contre lui puis exiger une pension éventuellement?
Ah, mais lui, il a pas le choix, parce que la filiation est là. Il est le père de cet enfant-là.
Oui, mais il a rien demandé, lui!
Oui, c'est mais il pourra pas s'en soustraire.
Mais c'est ça,
même
c'est pour
si
ça que...
Pas...
Pauvre enfant aussi là-dedans.
Hein? C'est, la presse s'est entretenue avec un professeur de droit de l'Université de Montréal. Là. Puis même si c'est ça, c'est lui qui mentionne il y aura les responsabilités et les obligations qui en découlent, dont l'obligation alimentaire.
Moi, je serais curieux même de savoir d'un point de vue juridique, je sais pas, mais d'un point de vue moral. Est-ce que tu peux te rendre comme père d'un enfant que tu ne voulais pas?
Mais ça reste ton enfant.
Je comprends, mais aller jusqu'à dire, écoutez, vous voyez bien que la mère n'est pas apte à avoir la garde de ses enfants-là. Regardez comment elle agit.
Ouais, mais là, tu vas faire souffrir ton enfant parce que tu vas enlever... Ça, tu sais, je veux dire, tu veux que ton enfant ait le mieux possible.
Oui.
Je sais pas à quel point elle s'occupe bien de ses enfants ou peu importe, mais de retirer un enfant à sa mère, là, tu punis pas la bonne personne, tu punis l'enfant.
Mais tu vois, quelqu'un par texto qui pense comme moi, je demande la garde complète. Puis là, je dis pas que je réfléchis rapidement, là. C'est ça. On fait de la radio en direct, hein, c'est ça. Il n'y a pas de filet quand on fait de la radio en direct. Mais c'est juste que je me questionnerais sur la santé mentale et psychologique de la mère si elle est en mesure d'agir de cette façon-là pour falsifier des papiers, pour avoir un enfant avec mon sperme.
Très discutant.
Alors qu'on est en séparation, on est déjà séparés et on a déjà un enfant ensemble. Il y a beaucoup de remises en question
à faire.
Là.
Mais maintenant, tu regarderais toutes les informations que tu as, tu te demanderais c'est quoi qui est le mieux pour les enfants.
Ça, c'est sûr.
T'sais, on la connaît pas, là, ce madame-là. Non. Visiblement, elle manque de jugement. Là. C'est un minimum. Puis c'est criminel, ce qu'elle a fait.
Puis est-ce que, mettons, si c'est que lui n'en veut plus et qu'elle en veut un autre, puis qu'elle se dit, tu sais, moi, je veux garder la même génétique, est-ce qu'elle aurait pu le poursuivre, lui, pour avoir dit non? Il y a tout un historique qu'on sait pas.
Vrai.
Parce que ça, c'est l'autre affaire. T'sais, les deux, oui, ont participé. L'embryon n'est pas plus à l'un qu'à l'autre, j'imagine. Mais si elle dit, ben, tu sais, il m'appartient en partie, puis moi, je veux la suite des choses, ou encore, elle désaffilie, là.
Ben, puis est-ce que ça vient aussi dans toute la paperasse que tu signes? Ben, écoute, c'est l'enfer, comment il y a des questions. Est-ce que ça vient avec toute la paperasse que tu signes avec la clinique de fertilité, ou est-ce que faut que tu... Est-ce qu'il faut notarier ce genre de décision-là si jamais on se sépare l'embryon? Est-ce qu'il nous appartient 50-50?
Est-ce que tu peux demander à détruire les embryons? Ça prend la permission des deux.
Il y a
tellement de questions qui se posent.
Éthique,
soyez prudents, les gens, consultez des avocats.
Puis là, tu vois, il y a des textos qui rentrent. Est-ce que c'est considéré comme une agression sexuelle, comme un viol? Moi, je pense pas, parce qu'il y a quand même pas le geste physique d'agresser quelqu'un sexuellement.
Ouais, mais en tout cas, on n'est pas.
T'as pas le droit de voler un rein de quelqu'un, là?
Non, mais t'as pas le droit non plus. Mettons, un gars peut pas faire un trou dans un condom puis mettre une fille enceinte sans son consentement.
Ouais.
Donc, est-ce que ça marche dans l'autre sens, la question se pose?
C'est parce que là, il y a quand même le geste physique de la pénétration. Dans le cas où est-ce qu'un homme perce un condom...
Oui, mais des fois, relation consentante, mais que tu altères ton moyen de contraception.
Puis là, mon autre question...
Il y a altération de moyen de contraception, étant donné qu'il y a fécondation ici.
Si, mettons, elle lui avait rien demandé, qu'elle avait dit, moi, je veux avoir un autre enfant, tu veux pas que ce soit le tien, tu es beau, ça t'appartient, ton nom sera même pas sur le document du directeur de l'État civil.
Mais est-ce que je peux prendre l'embryon?
Ouais. Est-ce qu'il aurait poursuivi pareil?
Ben...
Si elle l'avait fait,
ben, ça serait quoi votre réponse? À vous, mettons que vous êtes le gars.
Hey, moi, je serais pas à l'aise.
Mais si tu choisis de te séparer, ça dépend dans quel terme tu choisis de te séparer.
C'est ça, il nous manque beaucoup d'informations.
Il manque beaucoup de
parce
détails.
Il y a des gens qui se séparent qui sont de foutues belles équipes par la suite. Si, mettons, la fille vend son point en disant « Hey, je veux pas qu'on ait un enfant unique. Mm-hmm. J'aimerais ça que notre enfant de 3 ans ait un petit frère ou une petite sœur. Je comprends qu'ensemble, ça fonctionne plus. » Je pense que c'est peut-être des discussions qu'on peut avoir. Mais dans ce contexte-là, je vous parle de deux personnes sensées.
Mais là, dans ce cas-ci, ça marche comment, ça, en même temps, Véro? Parce que, tu sais, on est un couple, on se sépare demain matin, on a acheté une maison ensemble.
Ouais.
Tu décides que tu gardes la maison. Parfait, la maison vaut combien aujourd'hui? Rachète-moi 50 % de la maison. On l'a payé 50-50 au départ. Ouais, mais Nathan, finalement, on a un fils ensemble, mais j'aimerais ça avoir un autre enfant. On a un embryon ensemble. Parfait, l'embryon nous a coûté 20 000. Donne-moi 10 000. Comment tu gères ça? C'est une vie humaine. Tu peux pas monnayer ça non plus.
Je trouve ça triste pour l'enfant qui est né au mois de juin. Je trouve ça triste pour l'enfant de 3 ans. Je trouve ça triste pour l'entourage.
C'est une histoire triste.
C'est une histoire qui est absolument, mais absolument tragique. Puis je comprends que tout est fait dans l'anonymat, mais c'est tellement une cause qui retient l'attention que ça va peut-être faire même jurisprudence.
Sans doute que ça va laisser des traces, ça, c'est sûr et certain, possiblement jurisprudence aussi. On dirait que la meilleure chose à faire, c'est que par rapport à l'enfant, mettons que ça m'arrive à moi demain matin, j'essaie d'être le meilleur père possible pour cet enfant-là. Ouais, c'est ça que je fais.
Exact.
Je vais dire à mon ex, OK, parfait, mais je suis le père de cet enfant-là.
Tu veux surtout pas le laisser tout seul avec elle?
Non, on va décider à deux pour la suite des choses, puis je vais être le père de cet enfant-là, je vais être présent, je vais tout faire toute ma vie pour pas lui faire sentir que ce que t'as fait, ça avait pas de bon sens.
J'ajoute...
Mais ça doit pas être simple. Là.
Médiation, dans ce cas-ci, pour essayer de recoller les pots, parce que je veux dire, c'est un bris de confiance épouvantable.
Ça n'a pas de sens, là.
De forger la signature de quelqu'un, puis de faire un enfant avec quelqu'un sans son consentement, je m'excuse. Mais pour le bien des enfants... Essayer de recoller les pots cassés puis de réparer les choses.
L'autre élément, tu sais, on parle depuis tantôt, falsification d'une signature, c'est criminel. Peut-être que tant et aussi longtemps que la clinique et lui, il n'y a pas une reconnaissance de part et d'autre,
peut-être.
Qu'on n'est pas capable d'aller plus loin sur la démonstration qu'il y a une falsification.
C'est peut-être une étape essentielle
pour avoir des
plus
preuves
après.
Ouais.
Peut-être. Puis la médiation, c'est une bonne idée aussi, mais imagine, tu arrives à la rencontre de médiation comme parent. Finalement, tu es devant le médiateur ou la médiatrice. Puis là, tu fais le rendez-vous. Il n'était pas à 10 h. Non, non, monsieur, il était à 9 h 30. Puis voici l'entente de médiation. Vous avez signé le papier. Ça l'a fait une fois. Elle peut le faire deux, puis quatre, puis cinq, puis 15 fois aussi.
Pauvre monsieur.
My God. Que feriez-vous, si vous étiez dans cette situation? 971-1021?
Ou juste la situation où tu te sépares de quelqu'un avec qui tu as encore des embryons congelés?
Quelle situation?
Si jamais vous êtes dans cette situation-là, moi, je dis ça, je dis rien. Mais il annonce une canicule dans les prochains jours. Allez,
Nathan Meilleur, non, 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 non.
Le retour de Boulevard, la ride parfaite pour retourner à la maison. Boulevard 102.1, 100% parlé tout l'été.
89,95 pour un traitement anti-rouille original. C'est 25 $ de rabais. Un prix comme ça, ça se reverra pas. Prenez rendez-vous en ligne dès maintenant chez Anti-Rouille Champlain.
Devoir partir vite, vite du boulot pour le concert de flûte de Léo. Point. S'arrêter illico au Yuzu pour commander un combo avant le show, ça c'est un hit. Yuzu Sushi, le hit de ta journée.
Cet été, l'aventure vous appelle partout au Québec chez Arbraska. Découvrez nos 5 parcs avec encore plus de tyroliennes, de défis aériens et de sensations fortes en pleine nature. En famille ou entre amis, trouvez votre aventure dès maintenant. Ouvert 7 jours sur 7, réservé sur arbraska.com.
Saviez-vous que si Promutuel est l'assureur qu'on aime tant recommander, c'est aussi pour ses bons prix? C'est pas moi qui le dis, là. C'est Pascal. Bon prix et service rapide. Ou encore Gaétan. Très bon service, avec de très bons prix. Et il y a même Jocelyne qui ajoute « Excellent service et prix très compétitif ». Faites comme eux. Demandez une soumission à Promutuel Assurance et économisez jusqu'à 690 $ en regroupant vos assurances auto et habitation. Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la 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 la.
Bonjour, ici Carole. Comme je sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut mille mots qui disent... Un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau Go X. Un feu de camp pas éteint, qu'un toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben, un Go X là-dessus aussi.
Excuse, Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio.
T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair.
Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
On fait quoi finalement ce soir?
Hey, ben, on pourrait aller au Crackpot Café. Il y a une nouvelle succursale à Le Bourgneuf. J'ai envie de passer un bon moment créatif, peindre, déguster un café, puis se remettre à jour dans nos potins.
C'est vraiment une bonne idée, ça! Go, on y va!
Réservez dès maintenant au crackpotcafé.com.
L'Open Mic.
Hey, salut, c'est Audrey. Je t'invite à venir écouter dès 11h en semaine l'Open Mic, un segment où j'offre le micro à des gens qui ont des histoires marquantes, qui nous font vivre leur quotidien. On jase de plein d'affaires humaines, on met de côté l'actualité pour une demi-heure. Joins-toi à nous, manque pas ça.
L'Open Mic. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Si tu aimes les plats de chez nous, viens chez Trad. Si tu aimes être bien servi, viens chez Trad. Si tu aimes les cornichons sur ta poutine maison... Ah ouais, hey, merci, je vais essayer ça. Si tu aimes les bonnes idées, viens chez Trad. Les marchés tradition, pour vous, avant tout.
Vous avez transporté du matériel dans la poussière et la boue pendant de longues journées sur les chantiers. Mais aujourd'hui, vous tirez une roulotte de deux chambres vers votre petit coin tranquille pour aller décrocher. Avec jusqu'à 11 111 livres de capacité de remorquage, le Toyota Tundra est prêt pour tous vos chargements. C'est l'heure de conduire le vôtre. C'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme le Tundra 2026. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Cet été, venez jouer dehors avec nous au Centre Castor. Séjournez dans nos luxueuses yourtes au pied de la montagne, profitez de plus de 15 km de pistes de vélo de montagne et d'un magnifique parcours de golf de 18 trous. Réservez votre escapade dès maintenant au Centre Castor.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Tout l'été, Boulevard est 100% parlé en ce même. Marceau le matin, dès 6h. Le Point de Max, 10h. On en jase, midi. Le retour de Boulevard, à 14h. Et Marceau le soir, à 18h. Boulevard 102, 100% parlé, tout l'été. Le retour de Boulevard, 100% parlé, tout l'été.
Thank you.
Le retour à Boulevard 102.1 avec Véronique Bergeron, Antonine Iacarini, Nathan Meilleur. Là, on avait prévu autre chose pour vous, mais j'ai pas le choix de revenir sur les textos parce que la dernière nouvelle que tu nous as livrée fait énormément réagir. Puis, juste vous expliquer, dans les coulisses de la radio, quand on prépare cette émission-là, on s'envoie des sujets, on se parle beaucoup. Mais Véronique Bergeron a ce grand talent-là, des fois, de nous dire « Hey, j'ai de quoi ?» Faites-moi confiance, clin d'œil, et elle ne nous dit rien d'autre.
Mais je peux pas.
Et là, largue cette bombe il y a quelques minutes où, pour résumer la nouvelle, Véro, c'est un couple qui se sépare, ont déjà un enfant, avaient déjà fait congeler donc des embryons pour éventuellement, peut-être au cas où, avoir un autre enfant. Ce qu'on a comme information, c'est que suite à la séparation, la femme aurait falsifié la signature de l'ex-conjoint pour être en mesure, finalement, d'avoir un autre enfant. Donc, vous comprendrez, avec le sperme de l'ex en question.
En fait, c'est pas avec le sperme, c'est avec l'embryon.
Avec l'embryon, ouais. Effectivement, excuse-moi, de embryon. Donc, tout était consentant avant la séparation.
Ben absolument.
Mais suite à la séparation, on n'a pas pensé à gérer ce dossier-là. On a falsifié la signature de l'homme,
c'est
de l'ex-conjoint.
C'est allégué dans la poursuite.
Et là, on se retrouve avec un enfant qui est au monde depuis le début du mois de juin. Mm-hmm. Il est là, cet enfant-là, il est existant. Mais le père se retourne vers la clinique de fécondation en disant « Hey, vous n'avez pas fait votre job, moi, j'ai jamais donné mon OK pour ça. » Là,
puis
je me retrouve avec un deuxième
frais,
enfant.
Puis la pression, puis tout, d'où la poursuite en responsabilité.
Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions par texto. Claude qui dit « Les échantillons auraient dû être détruits dès le départ. » Mais ça, encore là, la clinique ne va jamais rien faire si vous vous appelez pas. Moi, ce que je sais, pour l'avoir vécu ça, et c'était pas pour... c'était pour la fécondation. C'est que, pour les auditeurs qui se joignent à nous, qui savent pas c'est qui ça, Nathan Meilleur, bonjour, très content d'être avec vous. De deux, animateur du côté de Weekend Radio habituellement, remplaçant à Boulevard cet été à l'occasion dans différentes émissions, dont là, dans le retour de Boulevard. J'ai été très malade il y a quelques années. J'ai dû combattre un cancer à l'âge de 35 ans et j'ai reçu 6 traitements de chimiothérapie. Et là vient la journée où il y a quelqu'un qui rentre dans ta chambre d'hôpital puis qui te dit « Penses-tu vouloir d'autres enfants? » Et là, moi, j'ai déjà 2 garçons à ce moment-là et je vous avouerai que c'est le cadet de mes soucis.
Oui, hein?
Mais
survivre
en même temps,
passe en premier, puis le reste, c'est loin derrière.
Mais là, en même temps, c'est parce que tu comprendras qu'un cerveau de gars là-dessus, ça peut aller vite. Puis là, tu le sais très bien qu'à un moment donné, à quelque part, il y a quelqu'un qui va te demander de te passer une petite tapoune dans une salle de bain d'hôpital que t'as pas envie d'être là, que t'as pas envie de faire, pour mettre ça dans un petit pot pour congeler ça. Mais finalement, après discussion avec ma copine, la décision n'était pas prise si on voulait avoir un troisième enfant ou pas. Donc, t'as pas le choix de le faire. Bon. Donc, je l'ai fait. Je vous avouerai que ce qui a été... ce qui s'est retrouvé dans le petit pot, sur une échelle de Kevin à Charles-Édouard, t'es plus proche d'un potentiel Kevin, là.
T'avais déjà commencé tes traitements, c'est ça?
Ben non, j'étais sur le point de le faire, mais j'étais excessivement malade à ce moment-là. Ça avait traîné avant que je reçoive les traitements. Écoute, tu sais, je vous épargne les détails là, parce que je sais que c'est un peu dégueu, puis c'est, on est quand même à la radio, mais tu sais, je me souviens d'avoir remis le petit pot puis de me dire on fera pas rien avec ça, là. C'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens.
C'est l'expression ça fera pas des enfants forts.
Ça fera pas des enfants forts, effectivement. Par contre, ce que j'avais, moi, comme tâche, c'était, à partir de là, chaque année au mois de juin, rappeler le centre pour leur dire si je voulais qu'ils conservent l'échantillon.
Ah ouais, hein?
Fait que c'était mon travail à moi. La première année, c'était correct, c'était réglé, mais à partir de là, chaque mois de juin, je devais appeler parce qu'eux, à un moment donné, font un tri naturel. Et si tu t'occupes pas d'appeler, ben c'est l'inverse de la clinique de fécondité. On va détruire les échantillons en question. Je veux revenir sur les textos parce que ça fait beaucoup réagir. Bon, il y a quelqu'un qui me dit « Tu vas te faire poursuivre par les Kevin. » Ça se pourrait, je suis vraiment désolé. Mais je vous aime les Kevin, plein d'amis qui s'appellent Kevin. Il y a quelqu'un par texto, Sam, qui dit « C'est quand même déjà une deuxième pension alimentaire qu'il va devoir verser. J'espère que ce n'était pas juste pour le faire chier, comme on dit momentanément. Bravo pour la traduction. » Il y a 2 enfants en jeu dans cette histoire-là, effectivement. Les pots sont pas juste cassés, ils sont en miettes après une situation comme celle-là. Effectivement, on a parlé aussi du fait de... Là, t'as l'embryon. Si l'ex-conjointe veut absolument avoir un enfant, t'as payé à 2. Est-ce que tu rachètes ta partie de l'embryon? Moralement, il me semble que ça n'a pas de bon sens.
Non, non.
faire ça, mais comment ça gère une situation comme celle-là?
Voulez-vous une autre histoire d'embryon? Parce qu'elle a connu un peu sa conclusion au courant des dernières semaines, puis c'est drôle, j'ai traîné ça avec moi, puis j'ai jamais eu l'opportunité d'en parler. C'est un couple qui faisait affaire avec une clinique de fertilité. Eux, ils étaient pas compatibles. Donc, ils devaient faire affaire avec cette clinique-là pour se faire implanter un embryon, puis de la manière dont ça fonctionne, tu choisis un peu les donneurs qui vont fonctionner là-dedans. Je vous ai mentionné que c'était du côté de la Floride, tout arrive là-bas. Mmh. Et l'embryon est implanté. La grossesse se déroule bien. La dame accouche. Puis là, ce que je vous dis, c'est pas une joke, là. Et vous pourrez chercher sur Internet, chercher « mauvais embryon implanté » parce que c'est l'embryon d'un autre couple.
Ah oui, ah, ça, ouais. J'ai vu ça passer. Oui, oui, oui.
Tu sais, la petite fille qu'ils ont eue, juste par la couleur de la peau, les deux parents sont châtain blond, là. Puis la petite fille, elle est brune, brune, brune. Elle a les cheveux noirs, noirs, noirs. Tu sais, semble avoir une origine peut-être indonésienne à travers tout ça. Et il a fallu que le couple convaincre ceux de qui c'était l'embryon de leur laisser.
Aïe, aïe.
Parce qu'eux s'étaient tellement attachés à cette fille-là, puis ils avaient peur de la perdre.
Ben, c'est sûr.
Il y a une entente qui est parvenue. Puis ça, ce que je vous dis là, la conclusion, là, ça s'est déroulé le 18 juin. Fait qu'on est encore, c'est encore récent, là, ça fait même pas deux semaines. Ils ont réussi à avoir une entente avec les parents pour conserver la garde exclusive de Shea, c'est comme ça qu'elle s'appelle, parce que ça faisait 6 mois qu'ils attendaient d'avoir le OK, de savoir que cet enfant-là, qu'elle a porté, pouvait rester leur fille à eux.
Imagine le stress.
Ça doit être absolument intolérable. Mais tu sais, tu as tout le temps la fameuse joke, « Oh, l'enfant est pogné de la bonne couleur. Mm-hmm. » Eux, là, ils souhaitaient un enfant.
Ouais.
Ils s'en sacrent, finalement, ouais, de la couleur. Ils s'en sacrent que ce soit pas ce qu'ils avaient choisi, entre guillemets, dans le catalogue.
Ce qui est rageant, c'est pas que ton enfant soit pas de
la
bonne couleur.
Non, c'est qu'ils sont
trompés. C'est l'erreur, parce que là, ça ouvre la porte à toutes sortes de procédures judiciaires, puis de flou, là.
C'est vraiment une histoire, j'ai envie de dire abracadabrante, mais c'est qu'on se retrouve dans une situation où, pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de bonne fin à cette histoire-là. Même si on spécule, il y a trop d'informations qu'on n'a pas.
Tu parles de l'histoire précédente de
Montréal?
De
l'histoire
là?
Précédente du côté de Montréal, parce qu'on nous pose la question par texto. Oui, c'est au Québec. D'autres informations qui rentrent par texto aussi. En in vitro, via Procréa, tu dois payer 400 $ par année pour storer les embryons. Donc, il y a un montant à payer pour conserver ça année après année. J'aime beaucoup le texto de Jean-François, puis on va finir avec ça. Lui, il dit 17 in vivo, 2 in vitro, 9 ans de suivi de fertilité. Je pourrais te faire un top 10 des meilleurs spots pour faire un don.
Ouais, lui, il a comme un bon parcours.
Il sait quand même de quoi il parle, effectivement. Histoire abracadabrante quand même du côté de Montréal. Sans doute qu'on va suivre ça parce qu'on va vouloir avoir le dénouement, oui, de ce qui se passe avec cette histoire-là. On fait une courte pause. Vous écoutez le retour, pardon, de Boulevard. J'ai voulu le dire trop vite.
Le
roule-bord de retour. Le retour de Boulevard. Dans les prochaines minutes, on va s'entretenir avec Roger Ferland, ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec, concernant ces 11 jeunes visés par des mandats d'arrestation. Ça a été annoncé ça un peu plus tôt par le SPVM concernant la mort du jeune Noran Rezaï. Donc, on parle avec M. Ferland l'autre côté de la pause.
Le retour de Boulevard. 100% parlé. Tout l'été. La playlist parfaite pour épater la visite pendant tes pool parties sans te casser la tête cet été, c'est sur l'app Boulevard. Faire une bombe dans piscine sur The Middle n'aura jamais été aussi épique.
102-1.
Ce segment d'émission présenté par Mini Entrepôt Space. Champion du Tetris, collectionneur non assumé ou roi du Oukou, ton garage mérite une pause. Mini Entrepôt Space.
89,95 pour un traitement anti-rouille original. C'est 25 $ de rabais. Un prix comme ça, ça se reverra pas. Prenez rendez-vous en ligne dès maintenant chez Anti-Rouille Champlain.
Le 1er juillet, venez célébrer la fête du Canada sur les plaines d'Abraham. De midi, plus de 50 activités et K-pop Demon Hunters. À 20 h, spectacle d'Annie Villeneuve au kiosque Edwin Bélanger. Le 1er juillet, c'est gratuit, festif et pour toute la famille. Une participation du gouvernement du Canada et production Logico.
Max, t'as-tu appelé Desjardins?
Non, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'appeler grâce à l'application Service mobile Desjardins. Mmh. Quand ta carte de débit ou de crédit manque à l'appel, t'es capable d'en recommander une rapido.
On dirait que tu dis beaucoup « app ».
À part de ça, mettons que ton papa te rappelle de payer ta part de l'apéro.
Franchement.
Non, mais fais-le un virement. Avec l'appli mobile, tu peux faire la plupart de tes opérations courantes. Oh, excuse-moi. App.
Ben non.
App.
Vraiment.
Appichou.
App tes souhaits.
App.
Votre pelouse mérite son moment de gloire cet été. Avec Winman Entretien de pelouse, les nouveaux clients profitent de 50 % de rabais sur le premier service de leur programme.
Résultat, un gazon d'un vert éclatant et plus dense.
Cet été, offrez-vous la pelouse que vous méritez.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Bon, OK, ça filme. Salut mes besties! On se fait un unboxing! Je capote tellement les filles parce que Mercado.fm m'a envoyé plein d'affaires. Nice! Un tapis de yoga! Ici, j'ai... oh my God, un crédit voyage de 1000$ et un abonnement de 1 an dans un gym. OK, les filles, littéralement, je capote vraiment en ce moment. Merci, Mercado.
Mercado.fm. Des offres à vous faire littéralement capoter.
T'as juste à y aller vite. Ça fait longtemps que j'en fais, je suis correct. Ah, j'en ai juste pris une. Je suis certain que ça passe. Y a pas de danger. Pas besoin de casque, c'est pas loin. Tu ne veux pas que ce soit tes dernières paroles. À VTT, quand tu testes les limites, tu n'es plus en contrôle. Garde ta passion en vie. Un message du gouvernement du Québec.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérés.
Tu fais du commercial, mais t'es tanné de jouer petit? Télio Assurance cherche un courtier producteur en assurance entreprise. Ici, tu bâtis, tu développes, tu performes. Ton portefeuille, tes clients, ton impact. T'as de l'expérience, de la drive et t'aimes sortir du lot? Parfait, Télio veut te parler. Équipe solide, support réel, croissance concrète. Travail flexible, bureau Québec ou Lévis. Prêt à passer au prochain niveau? Écris-nous à rhacommercialtelioassure.com.
Pour un été magique en famille, rendez-vous chez BeFly Québec, maintenant ouvert au 6525 Boulevard de l'Ornière. Plongez dans un monde fantastique entouré de centaines de papillons en liberté aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec un mini-golf unique, un module de jeu géant et un labyrinthe de miroirs. Une sortie familiale qui émerveillera petits et grands. Réservez votre visite au bfly.ca.
Si vous avez besoin d'aide avec vos dettes, contactez Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Rendez-vous sur raymondchabot.com.
Le retour de Boulevard 100% parlé tout l'été.
Vous écoutez le retour de Boulevard au 102.1, 16h33, toujours avec Véronique Bergeron, Antonine Iacarini, Nathan Meilleur, votre trio pour vous raccompagner dans votre fin de journée. On est avec vous jusqu'à 18h. Grosse programmation estivale. Ici, du côté de Boulevard 102.1, on reste 100% parlé pendant tout l'été au grand complet. Donc, vous allez être accompagné du matin jusqu'au soir. L'ami Yannick Marceau qui est là avec Max Larouche, avec Jeff Fortin le matin. Il y a le point de Max aussi qui reste en onde. Il y a On en jase avec Jeff Fortin par la suite. Et là, nous, on s'installe à compter de 14h pour vous accompagner, faire le tour de l'actualité. Et évidemment... ce qui retient beaucoup l'attention, c'est l'annonce qui a été faite du côté du service de police de la ville de Montréal dans les dernières minutes, dernières heures.
Ouais, Véro. C'est un point de presse qui a eu lieu aux environs de 15h alors qu'on avait un enquêteur du service de police de la ville de Montréal qui a fait le point sur ce qu'eux avaient à faire en lien avec l'affaire Nouran Rezaei. Pour vous rappeler, là, Nouran Rezaei, c'est un adolescent de 15 ans qui, le 21 septembre 2025, a perdu la vie lors d'une intervention du service de police de l'agglomération de Longueuil à Saint-Hubert. C'est des citoyens qui avaient contacté les policiers en parlant d'une gang de jeunes qui semblaient menaçants, qui étaient cagoulés. Une citoyenne qui mentionnait avoir vu une arme. Donc, le service de police de Longueuil se rend là-bas. Sur place, il y avait entre autres ce jeune garçon-là qui se trouvait avec des amis assis sur le trottoir, aurait porté la main à son sac à dos, puis à ce moment-là, les policiers auraient fait feu. Là, par contre, ce que le service de police de la Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui, c'est la conclusion de leur enquête à eux portant sur les événements qui précédaient ça, donc pas sur l'intervention du service de police de la ville de Longueuil. Fait qu'on a plein de questions parce qu'il y a plus qu'une enquête qui est en cours, puis Roger Ferland, ben, c'est le meilleur pour nous jaser de ça.
Et voilà, Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ et collaborateur régulier à Boulevard 101. Monsieur Ferland, bonjour.
Bonjour, vous êtes donc bien fin de la gang.
Oui, mais là, Roger, t'es le meilleur vulgarisateur pour ces dossiers-là. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui s'attendaient pas à cette conférence-là. Parce que là, on parlait de 11 arrestations, 7 jeunes qui étaient mineurs au moment des faits. Puis c'est comme si notre cerveau avait pris un raccourci en disant « Mais c'est sûr que c'est des arrestations en lien avec le service de police de Longueuil, pas avec des jeunes qui auraient été impliqués autour de tout ça. »
Puis c'est drôle, j'ai eu le même réflexe que vous autres. Là. Vous n'avez pas rêvé, là. C'est la même chose que je me suis dit on m'a demandé tantôt d'entrer en onde. Je n'avais pas encore du tout l'information. J'ai dit « Oups, qu'est-ce qui se passe là? » Mais après, j'ai réfléchi. Regardez, il faut comprendre, il y a trois enquêtes là-dedans en cours. La première enquête, c'est le BEI parce qu'il y a eu mort d'homme. Fait que le BEI, lui, à ce moment-là, nous empêche indirectement d'avoir toute information parce que ils en ont besoin, eux, pour le traiter. Puis, ils veulent traiter ça avec une grande transparence, mais beaucoup de sensibilité en ce moment, dans ce contexte-là. On comprend bien là, tout ce qui s'est passé, le contexte des jeunes, des jeunes personnes, des communautés culturelles, des policiers impliqués. Mais c'était tellement gros comme histoire, c'est arrivé en plein jour, que ça avait amené le travail des policiers différemment sur le moment, assez qu'ils ont tardé à déclencher le BEI. Ils ont tardé à aviser, en fait, le ministère. Alors, le ministre, sous la demande de la mairesse, a demandé d'ouvrir une enquête. Alors là, il y a une enquête administrative également pour comprendre pourquoi, monsieur le directeur de police, vous avez tardé à nous aviser, vous ou un de vos représentants. Fait que ça, c'est autre affaire. Mais il faut comprendre, le BEI lui a besoin d'informations. Puis BEI, ils n'ont pas toutes les équipes. Ils profitent de plusieurs services de police quand ils ont besoin sur place pour travailler avec eux en collaboration. Souvent, les enquêteurs d'identité. Mais là, voyez-vous, ils ont fait appel au SPVM pour faire une enquête parallèle en disant, dites-nous, c'est quoi les informations que les policiers possédaient pour penser d'intervenir avec ces jeunes-là?
Donc, le contexte qui les amenait là, puis vraisemblablement le factuel, là.
Le factuel, exactement, parce que là, c'est allé trop vite. Là. Ça a déboulé en quelques secondes. Les policiers ont de l'information, il y a un attroupement des jeunes armés. Mais je pense que les policiers avaient déjà de l'information de base avant ça. Il y avait d'autres choses. Et c'est là qu'on comprend que oui, il y en avait. Parce que s'ils regardent dans l'enquête parallèle, là, ils ont regardé, ils ont confié ça encore là à des enquêteurs indépendants avec des crimes majeurs. Les gars, les filles, ils ont regardé ça. Ils ont perquisitionné des lieux. Ils ont sûrement récupéré des cellulaires, ils ont sûrement récupéré des appareils électroniques qui ont servi à communiquer, mais ils n'ont pas sûrement récupéré d'autres choses. On pense à des armes à feu, des déguisements.
Parce que les accusations sont sévères, là. Tu sais, quand on parle de complot d'enlèvement, séquestration, port d'armes, puis plus que ça, ça veut dire que pour les jeunes qui ont été perquisitionnés, puis ensuite de ça, qui ont été arrêtés, c'est que dans ce groupe-là, il y avait quelque chose.
Il y avait quelque chose. Les policiers n'ont pas rêvé. Les policiers avaient de l'information à cet effet-là. On leur a sûrement dit au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient sur les ondes radio à cet endroit-là, bon, ben il y a peut-être une gang en ce moment qui s'apprête à ramasser une autre gang. Il va y avoir confrontation. Il y avait eu, rappelez-vous aussi, des confrontations la veille, l'avant-veille dans les écoles. Tu sais, ça brasse beaucoup là-bas. Puis je pense que nos jeunes, même si certains disent « Ah, je suis un gentil », bien, je pense que tes relations avec qui tu te tiens, ça commence à faire mal un petit peu, là. C'est pour ça que quatre adultes, finalement, du moins des jeunes qui sont rendus des adultes, sept personnes mineures, certes, la majorité ont été arrêtées et relâchées, mais avec des conditions sûrement sévères, parce que le mandat était visé. Et quand le mandat est visé, tu te dois te remettre en liberté une fois que tu as interrogé, une fois que tu as rempli certaines conditions de sécurité pour la population. Et les autres vont être arrêtés par sommation un peu plus tard. Les mandats d'arrestation sont là, mais le procureur de la Couronne a dit « OK, on va les convoquer à la cour directement à telle date ».
Ce genre d'accusation-là, M. Ferland, évidemment, je sais qu'on est trop tôt dans l'annonce probablement pour se positionner par rapport à ça, mais parce qu'on a parlé tout à l'heure du réflexe de quand on a eu l'annonce de la conférence de presse, on pensait que ça allait, on allait nous parler possiblement du service de police de la ville de Longueuil, davantage que de cette enquête-là qui était faite en parallèle par le SPVM. je peux, il y a une partie de mon cerveau qui ne peut pas s'empêcher de penser aux gangs de rue, à la guerre des gangs en ce moment, avec la perquisition d'armes, entre autres, des déguisements, des cagoules, les complots, les bons, tout ça. C'est quand même des jeunes. On sait qu'il y a beaucoup de recrutements qui sont faits auprès des jeunes aussi. Est-ce que, encore là, mon cerveau va trop vite, je réfléchis trop rapidement, puis on est à plus petite échelle, ou est-ce que c'est un lien qui pourrait être fait éventuellement?
Ben, en fait, je comprends que le BEI avait besoin de ces informations-là, de cette enquête-là pour prendre une bonne décision. Ton réflexe est très bon. On va devoir attendre encore parce que, vois-tu, c'est ça qui est le fun et triste en même temps quand c'est le BEI, parce que le BEI, lui, il garde l'information pour lui puis il tranche avec une ligne fine. Mais il avait besoin de cette enquête-là pour être éclairé sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans le contexte.
Parce que là, il y a encore des zones grises. On ne sait pas si ces jeunes-là, c'était véritablement la gang du jeune Nouran Rezaï. Il était-tu à mauvaise place au mauvais moment? T'sais, des gangs de flots, tu vas dans un parc, là, tu vas en avoir plein. Ça ne veut pas dire que c'est toutes des amis, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en train de fomenter les mêmes plans. Tu
le dis bien, c'est pour ça que là, il nous manque encore de l'information pour se faire une ligne finale, mais comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans au complet. Mais là, on comprend bien que finalement, les policiers n'ont pas rêvé. Les policiers ont agi en fonction des informations qu'il y avait. Il y avait un contexte de sécurité publique important dans ce contexte-là, parce que s'ils ont été capables de dire enlèvement, séquestration, port d'armes dans un dessin dangereux, des déguisements dans un dessin dangereux, d'après moi, il y avait des gens qui s'apprêtaient à aller enlever quelqu'un d'autre. C'est un complot. C'est pour ça que les policiers ont le droit d'intervenir avant, mais quand tu interviens avant, c'est plate parce que tu n'es jamais capable de tout prouver ce qu'il y en est. Puis c'est souvent sur le point de a été commis, c'est facile. Mais sur le point de, là, c'est difficile. Là, on est dans ce contexte-là un petit peu. Fait que... Mais surprenant, mais beau travail de fait qui éclaire un peu le public. Je ne suis pas sûr que ça va faire l'affaire de tout le monde, mais moi, en tout cas, ça m'apaise de voir ça et de voir la transparence que la SPVM fait là-dedans. Conférence de presse, dès que possible, on rassure le monde et on donne l'information.
Oui, transparence, mais en même temps, est-ce qu'on essaie d'influencer l'opinion publique? Parce que là, on a ces informations-là qui sortent avant d'avoir vraiment le nœud de l'affaire,
d'avoir l'enquête
du BEI.
Ben oui.
Donc, est-ce qu'on est en train de préparer le terrain à quelque part pour justifier le travail des policiers?
Antonine, t'as pas tort, mais je pense qu'on cherche à influencer tout le temps d'un côté comme de l'autre. Tu sais, moi, je vais me présenter dans une école dans les prochains jours, faire un atelier de basketball avec des jeunes. Là. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux leur partager mes bonnes pratiques, mais je veux aussi les influencer, mais différemment de d'autres, tu comprends? Là, par contre, il faut comprendre, le BEI, lui, ne veut pas se faire influencer. Le BEI, ça y prend des faits. Puis là, il vient de recevoir une série de faits, une série d'informations, des rapports factuels. C'est pour ça que le public peut être un peu influencé à gauche, à droite, ça, tu as raison. Mais le BEI, non.
Le BEI, d'ailleurs, là, ça va être le rapport qui va être le plus important, à savoir l'intervention de la police de Longueuil par rapport au jeune qui a perdu la vie. Ça va être la conclusion finale de tout ça. Ça peut prendre combien de temps, une enquête comme celle-là?
Ça peut prendre encore quelques mois, mais ça fait déjà 6 mois. Généralement, je regarde des enquêtes qui sont assez simples du côté de Québec, celles que j'ai eu connaissance, ça prenait des fois souvent un an. Un an à peu près avant d'avoir le retour. Fait que c'est pour ça que ça fait tout réfléchir sur le contexte dans lequel les policiers sont pris pour travailler en ce moment. On nous demande de travailler pinpoint sur ce qui se passe, mais pas faire d'erreur. T'sais, c'est pour ça que c'est délicat en ce moment, le contexte. Puis là, vous-tu, ils prennent bien du temps pour analyser cette situation-là, mais je veux que ça soit ça aussi. Je veux que ça soit transparent tantôt. Puis c'est sûr que le BEI, s'il se considère qu'il y a une pratique policière qui a pas tenu la route ou qu'il y a une action qui n'aurait pas été justifiée, bien, tu sais, ça va être triste tantôt pour certaines personnes. Mais là, je trouve que ça prend une tournure de dire « Ah, regardons, on n'avait pas tout ce contexte-là. » Là, ça rassure un petit peu.
Ça rassure, effectivement. C'est sûr que dans tout ça, gang de rue ou pas, avec les accusations qu'il y a en ce moment, qui restent à prouver, évidemment, il y a quand même un jeune homme de 15 ans dans tout ça qui a perdu la vie.
Extrêmement triste. C'est pour ça qu'il a gardé... sais, peu importe, puis lui, on sait qu'il n'était pas armé, mais le contexte dans lequel il était, c'est pour ça que je le sais, là, je veux même pas, il n'y a rien qui va remplacer pour une famille là-dedans où qu'il y en est. Les dommages collatéraux, en ce moment, là, tout le phénomène de gang, là, les jeunes, là, le sentiment d'appartenance, les choix qu'ils ont à faire, Colin, que c'est donc bien important. J'aime ton expression, Antonine. On peut avoir des influenceurs, mais des bons influenceurs aussi. Puis je pense qu'en ce moment, il faut pas juste. Je pense pas que c'est un show de boucan que la SPVM a fait là parce qu'il y a trop de risques d'importance là-dedans. Mais là, il nous apporte factuellement les faits pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe puis essayer de rassurer les gens, mais de leur dire aussi, regardez donc ce que vos enfants font en ce moment. Ils sont plus à l'école, là. Ils sont-tu vraiment au parc? Qu'est-ce qu'ils font sous le sel? Vous devriez savoir un petit peu ce qui se passe, avec qui se tient. Puis je pense qu'on n'est pas père poule ou mère poule de faire ça. On est juste des parents responsables.
Non, mais tout à fait. Puis votre point est excellent par rapport à ça parce que je l'ai vécu. Je suis passé par là. J'étais à une phrase près d'un professeur qui m'a ramené du bon côté avant d'aller traîner avec les mauvaises personnes, avant de me ramasser peut-être dans un gang de rue aussi où ça, l'histoire, on le racontera jamais parce que je me suis pas rendu là finalement. Mais vous savez jamais, je pense, comme adulte, à quel point une phrase, juste accorder l'attention, juste mettre une main sur l'épaule d'un adolescent puis demander « comment tu vas? » Pour vrai, réponds à ma question, s'il te plaît. Ça peut être un game changer complètement puis empêcher ces jeunes-là de chavirer parce que s'ils vont vers là, c'est parce qu'ils recherchent quelque chose. Ils recherchent l'approbation, ils recherchent l'attention. Puis là, ben, les gangs de rue leur offrent ça en ce moment.
Oui, oui, oui. Puis c'est, tu exprimes tellement de belles choses. C'est, le phénomène des gangs, là, c'est un phénomène normal qui a toujours existé. Sauf que là, on dirait que ça va plus vite dans la communication. Puis là, on veut les stigmatiser. C'est une gang X, l'autre, c'est la gang Y. Ils portent un nouveau nom. Mais attends un peu, on a toujours eu un sentiment d'appartenance. On a toujours voulu, autant toi, Nathan, que moi, quand j'étais jeune, être normal. Là, je veux dire, quand j'étais à l'école, moi, là, il s'agissait que tu me dises pas game. Puis d'après moi, je l'essayais. Là, mais pas game, c'est quoi l'enjeu à l'autre bout? C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on les occupe, il faut qu'on occupe nos jeunes, mais de ne pas les laisser dans la oisiveté, parce que si on les laisse oisifs, ben d'après moi, il y a des vautours qui les attendent à côté puis qui vont s'emparer de leurs bonnes idées et de leur guts et de leur courage.
Roger Ferland, on le disait d'entrée de jeu, ex-enquêteur du côté du service de police de la Ville de Québec, collaborateur régulier ici à Boulevard 101, excellent vulgarisateur. Encore une fois, M. Ferland, merci beaucoup pour votre temps.
Merci, Roger.
Merci, bonne journée à vous, gang. Bonne journée aux auditeurs de Québec.
À très bientôt, merci beaucoup. Effectivement, ça met en lumière différentes décisions qui ont été prises, puis j'aime l'approche que M. Ferland nous a expliquée sur le fait que c'était important pour les SPVM de sortir dès maintenant. En même temps, mais je comprends l'aspect stratégique là-dedans de sortir tout de suite pour dire voici les informations puis les faits qu'on a puis on va vous les livrer tout de suite. Puis
ça donne l'impression. Puis il y a surtout le risque que ça coule.
Hein? Puis on va y aller.
De toute façon, oui, faut le sortir.
On va le sortir là parce que clairement, ça veut dire qu'on va y aller étape par étape aussi à partir de là puis qu'on va pas attendre des semaines et des mois avant de nous donner les prochains détails.
Mais on se comptera pas non plus de menterie. C'est sûr que de sortir ça aujourd'hui, la kyrielle d'accusation. Oui. Ça vient un peu changer la lumière et la perspective qu'on peut avoir sur cet incident-là. Ça a une influence là, sur la manière dont on l'interprète.
Mais encore là, ça va toujours dépendre. Est-ce que ce gars-là, ce petit gars-là qui a perdu la vie, est-ce qu'il faisait partie de cette gang-là?
On ne sait pas.
Parce que, tu sais, sinon, mauvaise place, mauvais moment.
Exact.
Tu sais, oui, des fois, quand on est plus jeune, on va avoir des mauvaises fréquentations, mais c'est pas parce que c'est des... J'ai sorti avec un gars qui vendait de la drogue. J'ai rien fait de criminel dans ma vie. Mais tu sais, mauvaise place, mauvais moment.
Mais tu peux être un dégât collatéral d'une
opération,
tu ne sais pas.
Fait que c'est peut-être ça aussi. Puis ça, on ne le saura pas tant et aussi longtemps que le BEI ne remettra pas son rapport final.
Ça brasse beaucoup dans la circulation aussi.
Bon, en fait, il y a des bons ralentissements, des bons problèmes. D'ailleurs, il y a un accident qui s'est ajouté à tout ça. Si vous avez l'intention de circuler sur Capitale en direction est, actuellement, c'est bloqué à la hauteur du boulevard Pierre-Bertrand. La voie de gauche, c'est une panne qu'il y a dans ce secteur-là. Si on regarde le reste, puis tu sais, quand je vous dis que c'est bloqué, là, actuellement, quand vous allez arriver sur Henri IV en direction nord et que vous allez vous enligner vers Capitale en direction ouest, vous allez déjà ressentir le ralentissement. Puis ça touche aussi en partie quand on continue un petit peu plus loin là-dessus. Robert Bourassa, c'est en direction est aussi qui est problématique. C'est vraiment la portion là, entre l'autoroute Charest et justement la hauteur de la Capitale. Pour l'accès au pont, c'est complexe autant par Duplessis que pour Henri IV. On avait un accident un petit peu plus tôt qui s'est résorbé, mais malgré tout, le mal était fait. La 20, c'est en direction ouest dans le secteur des travaux. C'est toujours au rouge, rouge foncé. C'est le cas au moment où on se parle. S'il nous manque de quoi, ben faites-nous signe par texto. Ça va nous faire plaisir de le mentionner en ondes.
971-1021 parce que c'est votre émission à vous aussi. Il nous reste quelques minutes, Véro, avant d'aller en bloc publicitaire. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui valent la peine d'être mentionnées?
J'ai le goût qu'on parle un petit peu politique parce que c'est Antonine qui m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, il y a une annonce de désistement d'un candidat pour la prochaine élection générale qui a été faite. Puis, on a dit beaucoup, les sondages ont fait qu'il y a des ministres et des députés de la CAQ qui ont choisi de ne pas se représenter. Je pense que les sondages, ça peut faire mal à plusieurs partis à ce moment-ci, puis je me demande même si c'est pas le cas pour le Parti libéral. C'était probablement considéré comme étant un candidat important pour eux, parce que quand t'es un maire, que t'as été élu très récemment, les dernières élections municipales, ça remonte à peine à l'automne dernier, puis que finalement, tu dis, je retire ma candidature dans la circonscription d'Argenteuil, bien, j'imagine que ça fait mal au Parti libéral. C'est ce que Bernard Bigrat-Denis a annoncé. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait entendu les citoyens qui lui ont écrit ou qui l'ont appelé, certains pour l'encourager, mais d'autres aussi pour lui faire part de leurs inquiétudes, en disant, bien, on vous apprécie comme maire, on pensait qu'on vous aurait jusqu'en 2029. Mm-hmm. On s'entend-tu que ça, il savait quand même au moment où il a accepté de présenter sa candidature?
Moi, je m'interroge sur la manière dont les gens prennent leurs décisions, honnêtement, avec les candidats qui se retirent. Tu n'y avais pas pensé? Est-ce que le parti s'est précipité pour annoncer ta candidature alors que tu étais encore chambranlant?
Ouais.
C'est un peu étrange.
Puis tu me faisais remarquer aussi que ce n'était pas le seul candidat du Parti libéral qui s'est désisté. On a parlé beaucoup de René Verret, l'avocat qui devait porter les couleurs du Parti libéral dans Louis Hébert, alors qu'il y a une dizaine de jours de ça, on a appris que finalement, il ne se présenterait pas. Il s'est fait connaître, il était procureur dans toute l'histoire du procès de l'ancien cardiologue, Guy Turcotte. Il y a un autre aspirant candidat qui s'était retiré pour des raisons de santé mentale. Il y a une candidature que le PLQ avait dû retirer dans Côte-du-Sud pour des propos, mais on n'a jamais su c'était quoi les allégations qui avaient été faites par rapport à
des,
ça.
Des petits squelettes dans le placard.
Puis, pendant ce temps-là, la CAQ qui a annoncé deux nouvelles candidatures aujourd'hui là, dans Chemédé et Mille-Îles. Pas des candidatures bien extravagantes. Là, on continue à accumuler le nombre pour être capable de dire qu'on présente du monde dans les 127 circonscriptions. Là, c'est le PQ, je pense, qui est rendu un petit peu en retard dans ses annonces, et le Parti conservateur qui mènerait et qui aurait actuellement le plus grand nombre de candidatures confirmées pour la prochaine élection.
Ça va bon train, les candidatures. Je vous dirais que pour le Parti libéral, sont à un candidat qui se retire qu'on dise qu'il y a un problème, là.
À ce point-là?
Fait qu'il n'y a pas déjà un problème?
Bien, moi, je vois de la
fumée. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est parce que, tu sais, je suis content que tu sois là parce que là, j'aime...
Toi, tu trouvais que ça avait l'air d'un problème.
Bien, c'est juste que je trouve que c'est beaucoup, mais en même temps, c'est toi la pro là-dedans. Fait que si tu me dis qu'il reste encore un candidat, il y a encore une marge de manœuvre.
Bien, moi, je suis une personne tolérante et qui donne le bénéfice du doute, contrairement à toi, qui est intolérant, évidemment,
clairement,
et intransigeant.
Oui, c'est bien
connu. Non, mais, tu sais, c'est parce que le candidat dans Côte-du-Sud, il y a eu des allégations qui ont été rapportées à la surface. C'est des choses qui arrivent. C'est le parti qui l'a retiré.
Oui, c'est pas lui.
Dans Louis Hébert et dans Argenteuil, c'est des candidats qui se sont retirés. Et oui, c'est un peu étrange. C'est sûr, je regarde les projections d'Argenteuil. Le Parti libéral n'avait pas grand-chance de gagner ça, là. Moi, d'après moi, tu mets dans la balance, on parle souvent de balance dans notre émission, les pour et les contre de te lancer. Puis à un moment donné, les sondages en font partie. Puis là, quand tes citoyens disent « on est fâchés que tu démissionnes », parce que c'est vrai, dans le fond, pourquoi ne pas compléter vos mandats? Puis au lieu de vous représenter, si vous voulez vous présenter un autre palier, représentez-vous pas, puis trouvez-vous un autre job
parce
en attendant.
Que ça, c'est l'autre affaire. On a des élections à date fixe quand on a un parti qui est majoritaire. Fait qu'on savait qu'on avait des élections générales qui s'en venaient à l'automne 2026.
Ouais,
fait que moi, d'entendre des gens qui sont présentés au municipal, il y a une couple de mois qui ensuite de ça, je pourrais peut-être me présenter au provincial.
Parce qu'ils regardent les sondages.
Oui,
pour vrai, c'est ça. Puis c'est ça qui est dommage. C'est qu'au lieu de se dire, moi, j'aimerais ça me présenter à un autre palier gouvernemental. Donc, je ne vais pas me présenter pour un an au municipal. Je vais attendre. Je vais présenter, mais c'est parce qu'ils se gardent leurs options. Premièrement, tu te dis, en attendant, je vais continuer à avoir de l'exposure. Puis c'est qui est perdant là-dedans? Bien, c'est les citoyens, honnêtement.
En tout cas, moi, je les juge.
Oui, je comprends.
Je juge ces gens-là.
On les juge.
Ben oui, vraiment. Sauf que tout ça, les sondages, est-ce que... Bon, ma deuxième question était la suivante. Est-ce que le fait qu'on n'a pas l'impression que le chef du parti a les mains sur le volant en ce moment aussi, ça penche dans cette balance-là dont tu parlais tantôt?
Bien, on le connaît peu. On le dit souvent. On le connaît assez bien. J'aimerais ça mieux le connaître. Mais on sait
pas
non plus.
D'ailleurs, ce midi, si vous voulez mieux le connaître.
Oui,
le BLD.
Effectivement, c'est disponible en ligne. Vous pouvez l'écouter. Mais c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup de détails sur sa manière de gérer son parti à l'interne non plus. T'sais, on sait que le Parti libéral sort d'une grosse crise il y a quelques mois avec Pablo Rodriguez. Ça a fait couler de l'encre. Et après ça, M. Millard est arrivé par une non-course à la chefferie, là, un couronnement. Puis... je ne sais pas comment ils gèrent leur candidature. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu vêtes un candidat, quand tu fais des vérifications, tu approuves un candidat, puis qu'il y a d'autres informations qui arrivent par la suite, bien, on peut remettre en question le processus de vérification que tu fais avec tes candidats. Puis vous le savez, là, à chaque élection, la campagne commence, les autres partis gardent ça dans leur petite poche, là. Et là, ils fouillent là, sur les autres candidats de l'autre parti. Et ils attendent le plus tard possible dans la campagne électorale pour sortir les squelettes qu'ils ont trouvés. Pourquoi? Pour qu'ils soient trop tard pour le remplacer.
Ben oui.
Puis aussi pour mettre le chef mal à l'aise. Parce qu'il y a une journée de campagne de perdu parce que tu as un candidat qui a déjà écrit une affaire épouvantable sur Facebook puis tu as une capture d'écran. C'est le fun quand ça gâche la journée de ton adversaire politique. Donc, on le sait que ça arrive. Mais... là, on n'est pas en campagne électorale, ils ont du temps. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre comment on peut se retrouver dans une situation où des candidats se retirent, même si on sait que c'est inévitable, ça arrive tout le temps.
C'est quand même fascinant aussi d'oublier des fois ce que tu as fait. Mais en même temps, je dis ça, non, je peux comprendre. C'est juste que tu sais, quand tu es face au chef qui te dit, mettons, OK, Antonine, on veut t'avoir avec le Parti libéral, tu me promets que tu n'as rien à cacher.
Mais là,
puis là, tu dis oui,
c'est
OK, c'est correct.
Tu sais, moi, je pense à la conversation texto que j'ai eue il y a 12 ans, puis que j'ai dit une joke au deuxième degré, puis que si c'était une capture d'écran, puis je serais cancellée, mettons. Moi, ça, c'est dans ma personnalité d'être paranoïaque. Mais il y a bien du monde qui sont comme, ben non, c'est correct. Tu comprends? Tu sais, il y a un niveau de subjectivité là-dedans.
Effectivement, je comprends, je t'écoute, et tu me confirmes que je ne pourrai jamais me présenter en politique. Dans la circulation, Véro, il y a autre chose à mentionner.
Oui, on nous mentionne sur le texto que coin Hochelaga et Robert Bourassa, il y a un bon ralentissement parce que les feux de circulation ne fonctionnent pas. Donc, c'est des policiers qui s'en chargent dans le secteur pour ce qui est de la fluidité. Je pense à plein de messages que je pourrais avoir contre Nathan s'il se présentait en politique puis si je voulais pas qu'il soit élu.
Est-ce qu'il y a le mot fluidité dedans?
Peut-être.
Le retour de Boulevard jusqu'à 18h. 100% parler tout l'été.
Si vous avez besoin d'aide avec vos dettes, contactez Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Rendez-vous sur RaymondChabot.com.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, le filet de saumon atlantique frais est à 9,99 la livre ou 22,2 le kilo. Puis les cerises sont à 1,97 la livre ou 4,34 le kilo. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 1er juillet en magasin en ligne. Détails au superc.ca.
Telio Assurance, c'est un bureau d'assurance de courtage extraordinaire. Et je dis un bureau, en réalité, il y en a deux. Il y en a un du côté de Lévis et un du côté de Québec aussi. Difficile de vous décrire Telio dans un message live. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut le vivre. Et autant comme client que potentiellement comme employé aussi. Plein d'entreprises vont vous dire ça aujourd'hui en 2026. Nous, ce qui est important pour nous, c'est l'humain. C'est l'humain qui est au centre de nos décisions. Mais honnêtement, j'ai rarement vu une entreprise le mettre de l'avant pour vrai à ce point-là. Chaque fois que je vais faire un tour pour rencontrer l'équipe, c'est des gens souriants qui sont sur place. C'est des gens qui sont bien. C'est ça. C'est comme ça que je le décrirais. Quand on rentre chez Telio, on a l'impression que les gens sont bien, sont à l'aise. Ils vont être performants automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on leur offre un cadre pour l'être, avec un support, avec la possibilité de se développer, puis surtout avec un soutien qui est agréable. Puis là, je vous parle souvent du fameux bar à bonbons, de la machine à slush, de la machine à pop-corn, du fait qu'il y a un espace de travail pour vos enfants. Si vous êtes mal pris, il y a une journée pédagogique, quelque chose, une tempête qui n'était pas prévue, vous avez besoin de rentrer travailler, amenez-les vos kids, on a de l'espace pour eux, on a une aire de jeu, on a des consoles de jeu sur place, on a pensé à votre bien-être. Tout ça parce qu'on se dit que si on s'occupe bien de vous, vous allez bien vous occuper des clients par la suite. Si ça vous parle, ce que je vous dis actuellement, allez faire un tour dès maintenant sur le site Internet. Vous allez pouvoir envoyer votre candidature. Vous allez faire un tour sur le telioassure.com.
L'été bat son plein à la baie de Beauport. Profitez d'un site gratuit, de soirées thématiques, de musique et d'une ambiance festive au bord de l'eau. Avant le FEC, retrouvez le chansonnier Samuel Jacques. Tous les détails sur bitbeauport.parquebec.ca.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Vous êtes technicien ou technicienne comptable d'expérience? Et si votre prochain emploi vous offrait enfin ce que vous recherchez vraiment? Chez Matériaux Blanchet, on mise sur la confiance, la flexibilité et le respect de votre expertise. Horaires flexibles, deux jours de télétravail par semaine, régime de retraite, à